personne rejette le fait que Dieu se soucie de nous. Pourtant, quand nous lisons la Bible, par l'œuvre du Saint-Esprit, nous arrivons à la conclusion que la personne qui se soucie le plus de nous au monde, c'est Dieu. Dieu se soucie-t-il de moi? Oui. Nous allons le découvrir maintenant en détail dans la Bible, la parole de Dieu. Nous continuons notre série de messages sur le livre des Actes. Nous n'avions pas étudié les deux premiers chapitres parce que nous voulions les garder pour aujourd'hui, car c'est la Pentecôte. Bien sûr, je ne pouvais pas tout dire sur ces deux chapitres, car ils sont très longs et très riches en enseignements. Je me concentrerai sur cette question. Dieu se soucie-t-il de moi? Et voir ce que ces deux chapitres nous disent. Pour vous qui nous visitez, si vous désirez profiter de cette série de messages, sachez qu'ils sont tous sur le site internet de l'Église. Dieu se soucie-t-il de moi? Oui. Parce que, et là, le premier point que nous retrouvons dans ces chapitres, c'est que Jésus-Christ s'est donné. Jésus-Christ s'est donné pour toi, pour moi, pour nous. Luc est l'auteur du livre des Actes. Et il a commencé ainsi ce livre. Il dit ceci: cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus-Christ a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisi comme apôtres. Après sa mort, il se présenta à eux vivant. Il leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du royaume de Dieu. Fin de notre lecture. Avant le livre des Actes, on apprend ici que Luc avait déjà écrit un premier livre. Lequel? L'évangile de Luc, tout simplement. Donc nous le retrouvons dans nos Bibles, n'est-ce pas? Luc poursuit donc son travail en écrivant le livre des Actes. Et vous le mettez un peu côte à côte, vous lisez la fin de Luc et vous arrivez sur Actes et vous dites: ah ouais, ok, on voit le lien. Donc Luc poursuit son travail ici en écrivant le livre des Actes juste après la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Dans le texte que nous avons lu, nous apprenons par Luc que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Pierre, un apôtre de Jésus, va aussi dire ces choses sur Jésus dans le chapitre 2. On ne peut pas lire en entier tout ce qu'il dit, parce que ce serait long. Il parlera de sa vie, son ministère, sa mort, sa résurrection, et même son exaltation et sa position d'honneur suprême. Donc, il part comme s'il était dans un ascenseur invisible. Vous imaginez quelqu'un partir, c'est un peu bizarre. Et en même temps, on parle de sa position d'honneur suprême. Jésus est maintenant à la droite de Dieu le Père. Alors, pour certains ici, peut-être que cela peut paraître fou et difficile à croire. Et je peux bien vous comprendre. Un homme qui ressuscite, qui part en volant sous les yeux de plusieurs, et qui aujourd'hui est à la droite de Dieu, mon œil, c'est quand même bizarre ton truc là. Tu as raison. Et même nous croyants, même si nous avons été touchés par la grâce de Dieu et convaincus que la parole de Dieu est vraie, c'est vrai que quand on regarde ces textes, on se dit waouh. C'est bien pour cela en fait que Luc a écrit l'évangile et le livre des Actes. Jésus-Christ comprend aussi notre difficulté à croire. C'est pour ça qu'il a donné de nombreuses preuves de sa résurrection, nous dit Luc. Incroyable, ok, mais vrai. À plusieurs reprises, la Bible nous montre que Dieu est capable de ressusciter les morts. Facile, puisque Dieu est créateur de tout ce qui vit. De plus, Jésus-Christ, qui est ressuscité, n'est pas n'importe qui. La Bible nous dit qu'il est Dieu lui-même. s'est fait homme. Mais pourquoi Dieu est-il venu sur terre par Jésus-Christ? Quel était son but? Pourquoi est-il mort? Pourquoi Jésus-Christ est ressuscité, arrive devant les apôtres et leur donne des preuves de sa résurrection? Pourquoi est-ce si important tout ça? Parce qu'il se soucie de toi, de moi, de nous. Il se soucie de nous. Dieu veut notre bonheur, et c'est ça qu'il vise. Il veut notre joie. Dieu n'a jamais voulu la souffrance. Les gens pensent que Dieu est insensible face à la souffrance. Il est bien plus sensible que nous. Au point que lui-même a souffert à notre place. Donc, ce qu'il a souffert est bien plus terrible que ce que nous pouvons connaître sur la souffrance. Il est autant touché par la souffrance que nous. Et il nous aime. Voilà pourquoi il vient sur terre pour donner sa vie. Dieu vient par Jésus-Christ pour mourir et ressusciter afin d'anéantir le péché, détruire le mur qui nous sépare de lui et rétablir pour toujours notre relation avec lui. Il vient pour donner la vie éternelle, un bonheur sans fin. Oui, mais Manu, pourquoi Dieu nous laisse encore souffrir?
Ça, vous poserez la question à Dieu quand vous le verrez. Je n'ai pas forcément toutes les réponses à de telles questions. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a voulu s'attaquer à la racine du péché. Et pas juste, on pourrait dire, aux branches, comme un arbre. Alors on serait là juste à dire, il faut enlever ceci, enlever cela, alors que dans la racine, il y a un problème. Dieu veut s'attaquer à la racine du problème. Et le problème est le problème, c'est le problème du péché. Et Dieu, dans sa grâce, voici ce qu'il a fait. Jean 3,16 nous dit ceci. Et plusieurs peuvent le dire par cœur avec moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Il a décidé les choses ainsi, mais sa grâce est incroyable. Elle est vraie, touchante, bouleversante. Quand on comprend et saisit ce qu'il a fait pour nous, quand nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous à cause de nos péchés, à cause de nos désobéissances à sa volonté, nous ne pouvons pas dire qu'il ne se soucie pas de nous. Dieu se soucie-t-il de moi? Oui, parce que Jésus-Christ s'est donné pour toi, pour moi, pour nous. Deuxièmement, Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit pour toi, pour moi, pour nous. Dieu se soucie tellement de nous qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il est dit ceci, « Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout du monde. » Dieu n'a pas seulement donné un message qui libère, il a aussi envoyé des ressources à ses enfants pour qu'ils puissent partager partout cette bonne nouvelle à tous. Dieu veut que tout le monde entende ce message de bonheur, de grâce, d'amour. Un autre texte mérite qu'on prenne le temps de le lire. C'est Actes 2, versets 1 à 13, puisque nous sommes en ce jour de Pentecôte. Je vais le lire. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous rassemblés au même endroit, les disciples. Tout à coup, un grand bruit survient du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun d'eux. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux venus de chez tous les peuples du monde séjournaient à Jérusalem. les choses merveilleuses que Dieu a accomplies.
Waouh! Il n'en revenait pas.
Oh. Plongé dans la plus grande perplexité, il se demandait entre lui, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire?
Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu.
Clairement, à la fin du texte, on comprend ici qu'il y a quelque chose d'assez bizarre qui se passe, pas normal du tout. Quel moment fort pour les disciples et tous ceux qui étaient présents avec eux. Dieu se soucie tellement de nous qu'il veut habiter en nous par son Esprit Saint. Voilà ce que nous dit le texte. Il envoie le Saint-Esprit à ses disciples pour annoncer la bonne nouvelle à toute les nations. Dieu veut donner du bonheur à tous. Il veut une relation avec nous tous. Il veut nous remplir de son Saint-Esprit. Dieu ne fait pas de distinction. Il ne fait pas de favoritisme. Il n'a pas de chouchou. Dieu aime le petit, le grand, le riche, le pauvre, le faible, le fort, l'intelligent, le moins intelligent. Dieu nous aime tous. Dieu nous aime tous sans condition. Il veut le bonheur de tous. Il veut ton bonheur. Le Saint-Esprit est donné aux enfants de Dieu pour qu'ils témoignent de lui dans le monde entier. Pas une partie. Tout le monde doit recevoir ce message. Et bien plus encore, le Saint-Esprit est donné pour que notre amour pour Dieu et pour les autres augmente. Pour que nous vivions une relation profonde avec Dieu, une relation intime. Pour nous rendre capables de lui plaire, pour nous révéler qui est Dieu et comment le suivre, le servir, pour nous remplir de joie et d'espérance, pour nous maintenir dans la paix, dans les moments difficiles, quelles que soient les circonstances. C'est clair ici, quand on comprend pourquoi Dieu nous donne le Saint-Esprit, on peut arriver à la conclusion qu'il nous donne le Saint-Esprit parce qu'il se soucie de nous et nous aime. Il veut une relation profonde avec toi, avec moi. Il veut que nous expérimentions sans cesse son amour, sa grâce, sa paix. Il veut que par lui, nous puissions vivre des relations harmonieuses les uns avec les autres. Quel bonheur, n'est-ce pas, quand on peut vivre des relations harmonieuses avec les autres. Ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons vivre toutes ces choses que je viens de décrire. Dieu se soucie-t-il de toi? Qu'est-ce qu'il fait pour toi? Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Il s'est donné. Jésus-Christ s'est donné. Jésus-Christ a envoyé le Saint-Esprit. Et troisièmement, et dernier point, Jésus-Christ bâtit son Église. Nous le voyons dans Actes, dans chapitre 2, et verset 41 à 47, qui, je crois, est un avant-goût du ciel. Et assez souvent, les personnes qui prennent ce texte se disent « Ah, c'est l'Église parfaite. » Puis après, quand ils laissent besoin, ils se rendent compte que non, elle n'était pas parfaite. Ces versets que nous allons lire maintenant sont juste après la venue du Saint-Esprit et les paroles de Pierre, un apôtre que Jésus-Christ avait choisi. Cet apôtre a annoncé la bonne nouvelle qui libère de la mort et du péché. Et toutes les personnes entendent ces paroles et disent « Mais que devons-nous faire ?» ce qu'il doit faire, et ensuite on arrive à ce fruit du message de Pierre. Je lis, ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple et rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté parce que Dieu avait pleinement sa place. Le Saint-Esprit de Dieu agissait librement, transformait les cœurs et leur donnait de vivre un amour surnaturel pour Dieu et les uns pour les autres. Dieu bâtit l'Église pour un monde nouveau. Écoutez bien. Dieu bâtit l'Église pour un monde nouveau, où le péché ne sera plus, où le mal ne sera plus, où la violence ne sera plus, où l'infidélité ne sera plus, où la souffrance ne sera plus. Dieu bâtit l'Église, sa famille, pour un monde de paix, de joie, d'amour, de bonheur sans fin. Fini avec le péché, fini avec le mal, fini avec la souffrance. Vous êtes là? Hey! J'espère que cela vous réjouit encore et encore. Que Dieu bâtit son Église pour ce monde-là. De quoi encore réaffirmer que Dieu se soucie de nous? Parce qu'il ne veut pas juste ton bonheur et le mien. Il ne veut pas juste qu'on ne souffre pas, mais il veut qu'on ne souffre plus. Il s'attaque à la racine du péché, au péché lui-même. Il donne sa vie à la croix. Il s'est donné. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il bâtit son Église. Ça, pour moi, à ces deux chapitres, on peut dire que Dieu vraiment se soucie de nous. Si Dieu se soucie de moi, que dois-je faire? Que dois-je faire? Je vais vous indiquer trois étapes. À vous de voir quelle est la prochaine étape pour vous. À la fin, je vais vous inviter à nous engager devant Dieu. Que dois-je faire? Voici la réponse de l'apôtre Pierre, verset 38 dans le chapitre 2. Il dit un premier mot, changer. Changer. C'est là la première étape. Changer de vie. Alors, à entendre cela, peut-être que vous vous dites, et s'il faut changer et changer de vie, vous ne pourrez plus vous amuser, faire la fête, rigoler, vivre des moments de joie. Avec Dieu, quand je pense à la vie avec Dieu, je me dis non. C'est pas une vie sympa. Et c'est certainement pour ça que vous dites, mais j'ai pas envie de changer de vie pour une vie où je ne peux pas vivre une vie de joie. Mais si vous pensez ainsi, vous n'avez rien compris. Vous avez totalement faux sur la compréhension de ce que Dieu veut pour vous. Faire la fête, vivre des moments de joie, c'est justement cela que Dieu veut pour nous. Et la Bible, quand elle parle de la revenue, le retour de Jésus-Christ, il parle d'une fête. Il parle d'une fête. Et je crois que quand il parle d'une fête, ce n'est pas juste pour dire, pour parler du jour J, le jour J, on fêtera, puis ensuite on est là. Parce qu'on a l'épouse, il va sauter de nuage en nuage. Voilà, pour ceux qui pensent que c'est un peu bizarre, la vie avec Dieu. Alors que Dieu prépare pour nous une nouvelle terre où la justice habitera. Je crois que quand il parle de fête, c'est en fait la note, ou plutôt tout ce qu'on va vivre, on va avoir un esprit de fête. Nous serons dans la présence même de Dieu. Nous fêterons. Nous serons en fête pour l'éternité. Imaginez un peu cela. Donc changer, c'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu qui nous donne encore plus de joie. Bien sûr, vivre avec Dieu n'enlèvera pas les moments difficiles de la vie, mais Dieu nous promet sa paix, quelles que soient les circonstances, si bien sûr nous sommes prêts à lui faire totalement confiance. Il nous donne l'espérance de la vie éternelle, et ça, c'est énorme. Je le dis souvent, et je le redis encore aujourd'hui, que c'est de la folie de vivre aujourd'hui notre vie actuelle sans nous soucier de ce qu'il y a après la paix. Vous devez régler cette question. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et je vous invite à venir à Dieu. Changer de vie. Abandonner le péché, le mal, l'égoïsme, l'orgueil, la convoitise. Abandonner tout ce qui déplaît à Dieu pour le suivre dans une vie de
jamais fait ce pas, vous pouvez faire ce pas maintenant et faire de cet instant le jour le plus important de votre vie. Et si vous avez du mal à croire à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, vous avez même peut-être du mal à croire à l'existence de Dieu, alors venez quand même à lui. Dites-lui vos doutes, cherchez-le de tout votre cœur. Et Dieu dit lui-même dans sa parole, et ça va s'afficher ici dans Jérémie 29, 13, vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ça, c'est clair. Et combien de personnes dans d'autres religions ou des personnes qui n'avaient pas de religion ont fait appel sincèrement appel à Dieu, et Dieu s'est révélé à eux, que ce soit dans un rêve ou à toucher leur cœur d'une manière particulière. Dieu se révèle. Dieu est vivant. Et donc, vous ne venez pas à une religion, il faut juste croire, etc. Non. Vous venez à un Dieu qui est vivant. La première étape est de changer de vie. La deuxième étape est dans la suite de ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Changer et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le deuxième point, vous l'entendez ici, c'est s'engager envers Jésus-Christ par le baptême. Ça, c'est vous engager envers Jésus-Christ pour le suivre toute votre vie. Le baptême, c'est pas juste un truc, un petit acte religieux comme ça, bon voilà, je le fais, et puis ensuite j'aurai plein de cadeaux de la famille, génial. Voilà. Et je le fais parce que justement, il y a plein de cadeaux, non, c'est pas pour ça normalement, hein, n'est-ce pas? C'est plutôt parce que je m'engage envers Jésus-Christ. Et ça, c'est clairement ce que Dieu attend de nous, dans l'engagement du baptême. Et là, il suffit tout simplement de le demander à votre pasteur qui est ici, pour ceux qui sont de l'Église, ou à demander à quelqu'un pour que nous puissions ensuite vous accompagner. Nous aurons beaucoup de joie, vous accompagner dans votre démarche pour le deuxième jour le plus important de votre vie. La première étape, changer de vie. Deuxième étape, s'engager envers Jésus-Christ par le baptême. Et la troisième étape se trouve dans les versets 41 à 42. Nous l'avons déjà lu, je le relis. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des disciples, des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Ici, nous l'entendons bien. Le troisième point, c'est entretenir notre relation avec Dieu et avec sa famille. Vous pouvez entretenir votre relation avec Dieu en passant du temps avec lui. La prière, la méditation de la Bible, sa parole sont des éléments indispensables pour grandir, pour entretenir cette relation. Vous pouvez aussi entretenir votre relation avec les croyants en venant régulièrement au culte les dimanches, en faisant partie d'un groupe de maison et aussi en construisant des relations d'amitié avec certains croyants. Tout cela est indispensable pour être encouragé et grandir dans votre foi. Voilà, j'ai dit très courtement ces trois étapes. Changer, se faire baptiser et entretenir votre relation avec Dieu et avec sa famille. Maintenant, j'aimerais tous vous inviter à prendre un engagement devant Dieu dans la prière. Juste en lui disant, par exemple, Seigneur, ce matin, je m'engage à abandonner tel péché pour vivre pour toi, pour ta gloire. Chacun aura sa propre prière, mais je veux nous inviter à cet engagement. À vous de voir quel point vous concerne et engagez-vous devant Dieu. Alors, certains n'ont jamais fait le pas de venir à Dieu. Dieu vous appelle à venir à lui, à changer de vie pour expérimenter sa présence, sa grâce. Certains ont mal vécu la première étape, peut-être. Vous avez placé votre foi en Jésus-Christ, mais vous continuez à marcher dans le péché. Dieu vous appelle à changer de vie, à vivre dans la pureté. Certains se sont peut-être arrêtés à la première étape, mais Dieu attend toujours de vous l'engagement du baptême. N'attendez pas plus longtemps, Dieu vous appelle ce matin. Certains ont dit oui, un jour, adhésion vers Jésus-Christ par le baptême, mais il n'y a pas vraiment de relation vivante avec Dieu. Vous lisez peut-être contrairement à la Bible, la prière ne fait pas vraiment partie de votre vie quotidienne. Dieu vous appelle à vivre dans son intimité, à jouir de sa présence. Certains ont franchi toutes les étapes, mais viennent très peu à l'église. Vous êtes plus un chrétien seul, enfermé dans votre chambre, dans votre maison, et que Dieu vous appelle à jouir de sa famille régulièrement parce que vous avez besoin d'encouragement pour grandir dans votre foi. Certains ont franchi toutes ces étapes que j'ai mentionnées, il n'en manque aucune, mais votre vie avec Dieu est devenue qu'une liste de choses à faire. Je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Mais la relation vivante avec Dieu, votre amour pour Dieu et pour les autres, toutes ces choses se sont affaiblies. Dieu vous appelle à être davantage rempli du Saint-Esprit. Avant ce temps d'engagement, une chose est vraiment importante à comprendre. Et nous prenons ensuite un temps de silence pour nous engager chacun, suivant les étapes qui sont devant vos yeux, qui sont affichées. Les trois petits points, c'est parce que peut-être il y a quelque chose d'autre, une étape que je n'ai pas écrite là, mais que vous dites là, Dieu m'a parlé sur ce sujet-là. Mais avant, j'aimerais que vous compreniez quelque chose qui, un jour, m'a particulièrement touché. Quelle que soit l'étape à franchir, Dieu n'est pas comme une personne fâchée après vous. C'est peut-être cette image que vous avez de lui, et quand vous, vous regardez la liste là, vous dites je vais m'engager, mais Dieu, il est fâché. Et peut-être que mon engagement ne sera pas assez significatif ce matin et vous êtes là à traîner les pieds. Mais si c'est cette image que vous avez de Dieu, vous vous trompez. Dieu n'est pas du tout ainsi. Il y a plutôt en tête cette image d'un père qui aime son enfant. Il voit son enfant tomber ou passer à côté du bonheur. Il est triste en le voyant se faire mal, en prendre et prendre de mauvaises décisions. Il est toujours prêt à l'aider parce qu'il l'aime. C'est une telle image qu'on retrouve dans la Bible, n'est-ce pas? Certains connaissent cette image de cet enfant qui est parti de la maison de son père et avec l'héritage. Il a profité à fond de la vie, mais a tout perdu. Quand il s'est retrouvé sans rien, il est retourné dans la maison de son père. Et la première chose que nous pouvons avoir en tête, c'est aïe aïe aïe, il va avoir la fessée. Elle est en colère. Ça ne va pas aller là. Mais c'est totalement le contraire. Le père, il est dit que le père saute au cou de son enfant. Et puis, même avant, ça dit qu'il regarde loin. Donc, il cherche son fils. Il le veut. Il veut son retour. Il saute au cou. Et qu'est-ce qu'il fait après? Tellement sa joie de revoir son fils est immense. Un jour, j'étais avec un frère et je lui disais tout mon cœur, tous mes péchés, tout ce qui est sale. Et assez souvent, il me pose cette question : quel est le regard de Dieu sur toi ? Et moi, à chaque fois, pour moi, le regard de Dieu, c'est il attend de moi que je change, il attend de moi que je fasse, etc. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais il n'y avait pas ce côté aimant de Dieu. Et lui me dit, c'est comme quelqu'un qui joue au basket, tu rates, il y en a qui vont faire. Hein? L'entraîneur, peut-être, il va être fâché, pas content. Et vous avez l'attitude qui n'est peut-être pas habituelle, mais je pense plus pour les supporters, en fait, qui vont être dans la tristesse parce qu'ils veulent. Des points soient gagnés. Et Dieu regarde au point que je veux, il regarde plutôt à ce que je peux faire plutôt qu'à ce que je n'ai pas fait. Dieu a ce regard sur moi. Il ne regarde pas mes erreurs, mes péchés. Il est plutôt attristé de voir que je passe à côté du bonheur qu'il veut me donner. Dieu se soucie tellement de moi. Sa plus grande joie est que je vienne à lui ou que je revienne à lui. Sincèrement. Et Dieu me dit, Manu, je t'aime. Et là où tu viens, et là où tu vas, c'est bon pour toi. Là où tu tombes, etc. été triste par rapport à ton attitude là. Mais ce que je regarde, c'est le potentiel qu'il y a, plutôt que les erreurs et tout ce que tu as fait de mal. Ayez ce regard, ayons ce regard de Dieu qui regarde devant et non derrière. Dieu t'aime. Alors viens maintenant à ce Dieu qui t'aime, qui veut transformer ta vie par l'action de son esprit. Prenons un temps de silence maintenant. Demandons pardon à Dieu. Disons-lui notre engagement à aller à la prochaine étape. Et pour, peut-être pour certaines personnes, Dieu se soucie-t-il de moi, peut-être que c'est difficile à vous, par rapport à une situation particulière, d'arriver à vous dire cela. Eh bien, demandez à Dieu son secours. Et engagez-vous à placer votre foi et lui faire confiance dans ces circonstances. Si les sujets peuvent rester affichés. Merci. Prenons ce temps en silence et je prierai. Dieu notre Père, merci parce que tu te soucies de nous. Que ton amour continue à nous bouleverser et à transformer nos vies. Je vois tous ceux qui ont répondu à ton appel ce matin. Je te demande d'agir maintenant dans leur cœur. Continue à toucher leur cœur, à transformer leur vie. Que l'engagement pris ici soit soutenu par l'action de ton Saint-Esprit. Que dans les prochaines semaines, nous puissions avoir la joie d'entendre plusieurs dire « J'ai fait un pas de plus avec Dieu et je le vois agir dans ma vie. » Viens, notre Père, que tu nous aides à ne jamais oublier dans nos situations difficiles. Que tu es celui qui se soucie de nous. Tu nous aimes. Tu nous portes comme nous l'avons chanté. Tu ne nous abandonneras jamais. Continue à bouleverser nos vies par Jésus-Christ mort et ressuscité, par l'action de ton esprit. Continue à nous remplir, oui, de ton Saint-Esprit. Continue à bâtir ton Église. Tes projets sont parfaits. Père, que ton règne vienne. Nous nous attendons à l'action de ton Saint-Esprit dans nos vies et dans ce monde qui a tant besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ.